France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Fanny Richet et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Dalia. Dernier volet de notre série consacrée aux transformations de la nation ukrainienne 4 ans après l'invasion russe du 24 février 2022. Nous avons évoqué le rapport des citoyens à leur État dont ils compensent les fragilités et qu'ils se sentent en retour légitimes à critiquer. La solidarité qu'il s'agit de maintenir sur le front comme à l'arrière. Les atteintes à l'environnement, un préjudice durable. Aujourd'hui, ce que la guerre fait aux relations entre l'Ukraine et l'Union européenne. Pour l'Ukraine, l'urgence de l'intégration, exprimée ici par Volodymyr Zelensky, suivi de la ministre danoise Marie Bjerre et du président du Conseil européen Antonio Costa.
Nous nous adressons à l'Union européenne en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires d'être à nos côtés, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens et surtout d'être égaux.
Il est très clair que nous sommes 26 pays membres à envisager un avenir avec l'Ukraine au sein de l'UE. La question n'est pas de savoir si, mais quand.
Nous souhaitons, dès que possible, pouvoir ouvrir officiellement les négociations et avancer dans ce processus d'élargissement. Je ne peux pas dire si cela se fera en 2027, voire en 2026, ou plus tard. Mais ce qui importe, c'est que nous ne perdions pas cet élan.
Entre l'Ukraine et l'Union européenne, c'est une longue histoire de malentendus. La première clame depuis l'indépendance son désir de rejoindre la seconde, voire d'y retourner, selon les mots de certains intellectuels. L'Union européenne lui répond en gros « Donne-moi ton téléphone, je te rappelle », comme ironise le politiste Mykola Ryabchuk, qui se souvient de la remarque de Romano Prodi, jadis président de la Commission, disant que l'Ukraine a autant de raisons d'être dans l'UE que la Nouvelle-Zélande. Après tout, les Néo-Zélandais aussi ont une idée identité européenne, si on n'est pas trop formaliste. Les Ukrainiens guettaient les sémaphores des dirigeants européens qui, pour leur part, se retranchaient dans de mystérieux hochements de tête. Mais l'invasion d'une grande partie de l'Ukraine il y a 4 ans a poussé l'UE à reconsidérer les choses, à se dire que le pays n'est pas qu'une note de bas de page de la soviétologie, comme l'écrit l'historien britannique Timothy Garton Ash, et que défendre l'Ukraine est aussi une question de sécurité et de valeur. Le partenariat entre Kiev et Bruxelles, jusque-là strictement économique, est devenu plus politique et militaire, et Volodymyr Zelensky depuis ne cesse de demander que son pays bénéficie d'une procédure d'adhésion accélérée qui la ferait doubler tous les candidats déjà dans l'antichambre. Pour l'Ukraine, l'intégration à l'UE est devenue comme un front essentiel du conflit. Bonjour Annie Daubenton.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante de Radio France à Kiev et Moscou, spécialiste de l'Ukraine. Merci de venir partager votre fine connaissance de ce pays et de ces négociations avec Marcello Ciola, que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Rome. Vous êtes chercheur à l'université Giulielmo Marconi de la ville de Rome. Votre toute récente thèse en sciences politiques porte, je cite, sur la construction du modèle européen de coopération en matière de sécurité et de défense au concret, où vous étudiez les cas concrets justement de deux cas précis, l'Iran et l'Ukraine. Alors, de nouvelles discussions se tiennent aujourd'hui à Genève, Annie Daubenton, entre diplomates ukrainiens, états-uniens et russes. Les discussions tournent essentiellement autour des territoires occupés, mais la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, est-ce qu'elle reste un élément des négociations à proprement parler ?
Est-ce qu'elle reste un des éléments de négociation? C'est difficile de le dire pour l'instant parce que vous savez, les négociations, chaque fois qu'elles ont lieu, et maintenant elles ont lieu assez régulièrement, de nouveaux points sont abordés. C'est un peu des négociations à la carte. Vous savez, vous avez parlé des problèmes territoriaux qui doivent être abordés aujourd'hui, mais la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est régulièrement évoquée, en particulier par les Américains, qui au fond serait bien content de se décharger de ce fardeau, surtout qu'il va y avoir plusieurs fardeaux. Il y a le fardeau de l'armement pour l'instant, tant que nous sommes en guerre, et puis il y aura le fardeau, quoi qu'il en soit, de la reconstruction du pays, qui va être également extrêmement lourde. Et donc tout d'un coup, ce sont très étrangement, au moment où l'administration Trump se retranche de l'Europe, elle remet en avant l'Union européenne pour accélérer ce rapprochement avec l'Ukraine et ainsi offrir aux Ukrainiens à la fois une sorte de compensation pour les efforts qui seraient bienvenus qu'ils fassent pour que l'administration Trump puisse accrocher cette victoire supplémentaire, mais aussi pour se débarrasser des problèmes économiques qu'elle pourrait faire sentir. Donc on est là dans un jeu, vous savez, extrêmement délicat, où l'Union européenne, au fond, et M. Marcello Ciola va le préciser plus que moi, où l'Union européenne a un jeu inattendu pour cette institution lourde, avec ce processus d'adhésion extrêmement lent que régulièrement Zelensky et Kiev essayent de pousser à coup pour dire on veut un rendez-vous, on le veut noir sur blanc et on en a assez d'avoir attendu dans cette antichambre.
Et c'est exactement ce qu'a dit Volodymyr Zelensky dans un discours où il a paru un peu plus amer ou en colère même contre l'Union européenne. C'était tout récemment, le 22 janvier dernier, au Forum de Davos.
The great American film Groundhog Day with Bill Murray and Andy McDowell. Yes, no one would want to live like that. Repeating the same thing for weeks.
Chers amis, dit ici Volodymyr Zelensky, tout le monde se souvient du grand film Un jour sans fin avec Bill Murray et Andy McDowell, mais personne n'aimerait vivre de cette manière, à répéter les mêmes choses en boucle, semaine après semaine, mois après mois, et même année après année. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive à l'Ukraine, c'est notre vie, et tous les sommets internationaux comme celui-ci le prouvent. Il dira plus tard, ne nous abîmons pas dans les seconds rôles, c'est une adresse qu'il a auprès des dirigeants européens. Est-ce que Volodymyr Zelensky, Annie Daubenton, s'était déjà montré aussi, comment dire d'ailleurs, véhément, amer, lassé, vis-à-vis de l'Union européenne?
Écoutez, il y avait plusieurs choses. D'abord, il y a les 4 ans de guerre qui ont été vraiment, on appelle guerre d'usure, mais je pense que le terme est bien trouvé, malheureusement. Et donc, il y a cette impatience terrible. Il y a cette crainte, finalement, d'être pris entre 2 feux, si je puis dire, et même 3, c'est-à-dire Washington qui se recule, les Russes qui continuent à frapper et l'Union européenne qui hésite. Et donc là, il y a de la part de Zelensky, qui est un être, heureusement d'ailleurs pour ce conflit, turbulent, impatient, il y a là la volonté de mettre au fond, chacun au pied du mur, à chacun de prendre ses responsabilités.
De prendre les responsabilités aussi de la sécurité de l'Ukraine et de l'Union européenne. Vous disiez tout à l'heure que les États-Unis seraient bien contents de se décharger, entre guillemets, du fardeau de la garantie de la sécurité et de la souveraineté ukrainienne, et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce serait en quelque sorte sa garantie grâce à la clause d'assistance mutuelle qui est présente dans le traité de l'UE, qui permet à chacun de ses membres d'être placé sous la protection de ses partenaires. Et c'est aussi ce qui maintient la plupart des dirigeants européens dans une grande réserve et une grande prudence, on y reviendra. Pour l'Ukraine aussi, Marcello Ciola, il s'agit de trouver un autre protecteur que les États-Unis. Ça entre dans le discours et le calcul.
Oui, voilà, c'est justement ce que on venait de dire. En fait, c'est que l'UE, pour Kiev, c'est un élément de négociation. Passe à mon trou aussi, c'est-à-dire qu'il préfère, on va dire, être renoncer de quelque façon à l'OTAN pour entrer dans l'Union européenne sous la protection de la clause de solidarité à l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, c'est une clause de solidarité, hein, on va dire, un peu plus vague par rapport quoi, à l'article 5 de l'OTAN. Alors, mais ça garantit un peu une perspective de paix sur le long terme à Kiev.
Alors, Marcello Ciola, pardon, on vous entend de façon très étouffée. Si vous voulez bien peut-être parler un peu plus près de votre micro, mais on va tenter de vous joindre à nouveau parce que vous avez des éléments très concrets à nous donner de la façon dont sur la façon dont l'Ukraine et l'Union européenne se sont rapprochés aussi au niveau des hommes par les fonctionnaires également toutes ces années. Et j'ai très envie de partager ces travaux, le résultat de vos travaux avec les auditeurs et auditrices. Annie Domenton, en attendant, cette clause d'assistance mutuelle, elle bloque aussi des pays européens qui disent ben, si là on accorde à l'Union européenne, à l'Ukraine l'adhésion à l'UE, ben, il va falloir tout de suite se lancer dans la guerre en quelque sorte. C'est l'un des arguments opposés. Et il y a un autre mot qu'on entend souvent, le mérite. Un critère essentiel de l'adhésion à l'UE, c'est ça se mériterait. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est un leitmotiv des fonctionnaires européens où il figure vraiment dans les critères de Copenhague? Parce que Volodymyr Zelensky s'en défend justement et dit il y a peu de gens aussi méritants que nous.
Oui, sur le mérite, on peut dire qu'ils auraient gagné. Est-ce que c'est un critère de Copenhague? Je ne crois pas. Donc là, il y a, vous savez, deux visions des choses qui s'affrontent. Une vision très rationnelle et qui malheureusement est également dure pour l'Ukraine. C'est-à-dire, vous savez, c'est quand même... Il y a une chose qui m'a frappée dans les jours derniers pour revenir sur ces négociations, c'est que le jour même du 24 février 2022, le jour même, il y a eu un rappel de l'Union européenne et un rappel de la Pologne. Et les deux, finalement, allaient dans le même sens d'une certaine manière. L'Union européenne qui disait, bon, ben, écoutez, on vous rappelle quand même les critères, ils doivent être remplis, ils sont durs, difficiles, mais il faut les remplir. C'est-à-dire l'intégralité des réformes, anticorruption, justice et les points faibles, on peut dire, de l'Ukraine. Et puis, également, rappel de Sikorski, vous savez, qui est ministre des Affaires étrangères de la Pologne, et qui a dit, écoutez, 2027, c'est illusoire, faites preuve de réalisme. Et en particulier, pour la Pologne, c'est tout ce qui concerne le domaine de l'agriculture qui a posé problème. À un moment donné, même, il y avait des manifestations de éléments ruraux, disons, de la Pologne, qui étaient à la frontière pour bloquer les échanges. Donc, il y a là, vous parliez mérite, il y a mérite contre rationalité, d'une certaine manière. Et c'est vrai que l'Union européenne, dans sa conception, dans sa structuration, n'est pas faite pour faire du sentiment. Voilà. Et là, on est face à deux approches qui sont délicates à concilier. Et voilà, donc du coup, ces trois possibilités de scénarios d'élargissement, l'élargissement inversé, le processus classique ou le processus actuel. C'est-à-dire, on vous accepte par chapitre et ensuite, on verra au mérite, pour le coup, si vous méritez cette entrée dans l'Union européenne.
L'adhésion dite inversée qui permettrait de ne pas remettre en cause les critères d'intégration s'imposant aux autres candidats, donc une adhésion dite inversée, ça veut dire que l'Ukraine serait officiellement membre de l'Union européenne sans jouir de tous les droits de ses membres. Elle pourrait par exemple assister au débat au Conseil européen, mais sans prendre part au vote, mais avoir en échange un accès progressif au marché unique, aux subventions agricoles et aux fonds de développement. Quel débat, Marcello Ciola, cette proposition-là provoque en Ukraine aujourd'hui?
Bah alors pour l'Ukraine, l'intérêt c'est d'arriver carrément à une intégration le plus vite possible, pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette compensation psychologique interne, c'est-à-dire on pourrait éventuellement geler le conflit maintenant, mais au moins on est membre de l'Union européenne, ça représente une victoire pour le gouvernement, mais aussi quelque façon pour la population, parce que ils se sentiront enfin en dehors de l'hégémonie russe, et même si des régions restent sous le contrôle de Moscou. Et justement,
cet aspect de adhésion à l'Union européenne très rapide pose un problème à l'Union européenne, même au sein des négociations maintenant, parce que l'Union européenne a encore cette position ambiguë. Elle ne sait pas si l'adhésion de l'Ukraine, ça représente soit un élément des négociations vis-à-vis de Moscou, ou si c'est un droit inaliénable de Kiev en relation à ce qu'on peut appeler la méritocratie du sang, c'est-à-dire ils se sont sacrifiés à travers la guerre, est-ce qu'ils méritent, justement on parlait de mérite tout à l'heure, l'adhésion à l'Union européenne. Mais il y a un problème encore préalable, c'est quel modèle justement appliqué à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. On a eu deux exemples historiquement, c'est le modèle allemand, c'est-à-dire avant on attend la réunification du pays et après on envisage une adhésion à l'Union européenne, ou il y a aussi le modèle de Chypre, c'est-à-dire que l'Ukraine peut rentrer à faire partie de l'Union européenne, qu'elle accepte de se réformer, il prend l'acquis communautaire, mais cet acquis s'applique que aux territoires qui sont sous le contrôle de Kiev, même si tout le pays, dans ses frontières de 91, est reconnu comme partie de l'Union européenne.
Alors vous citiez l'Allemagne, et aujourd'hui l'Allemagne est l'un des États en Europe qui s'oppose, j'allais dire le plus, ce serait oublier que la Hongrie de Viktor Orban est vraiment la plus véhémente, mais l'Allemagne s'oppose fermement à une intégration rapide de l'Ukraine. Friedrich Merz aujourd'hui, mais déjà Helmut Schmidt à l'époque aimait à dire que l'Ukraine n'était pas un État-nation et n'avait rien à faire au sein de l'Union européenne. Alors pour comprendre ce que le déclenchement de la grande offensive russe de 2022 a changé de la nature même des liens entre l'Ukraine et l'UE, on peut commencer par raconter cette histoire, non pas depuis le début, Annie Daubenton, mais depuis l'indépendance de l'Ukraine, 1991. On ne peut pas dire les Ukrainiens voulaient ci ou ça, c'est compliqué, mais d'abord les élites politiques de l'époque, quel discours avaient-elles sur l'Union européenne ?
Vous savez, il faut bien se replacer dans ce contexte, à savoir qu'on est dans un pays post-soviétique. Et donc, les donnes sont essentiellement dans les têtes des gens et dans les têtes des élites politiques venues de Moscou. Voilà, c'est la réalité. On ne pouvait faire quoi que ce soit qu'en passant par Moscou. Et donc, il y a une sorte de... Il y avait, dans les années, on peut dire, 89, 90, jusqu'à 95, 97, il y avait une sorte d'idéologie post-soviétique qui faisait qu'on avait un peu les bras dans le dos et qu'on ne pouvait pas par soi-même envisager quelque chose. Et là, il y a un phénomène qui c'est vraiment très intéressant en ce qui concerne l'Ukraine, à savoir que c'est les élites culturelles qui ont pris le relais, si tant et si bien que la souveraineté et l'indépendance ont été fabriquées, on peut dire, discutées au sein de la Maison des écrivains à Kiev, et pas au Parlement, qui lui était post-soviétique, très finalement dans un format qui était plutôt une sorte d'alliance avec Moscou, et on va continuer comme ça. Donc il y a là cette spécificité, et que donc ces alliances culturelles, intellectuelles, les historiens, les écrivains, les linguistes, la langue, c'était très important, ont donc fabriqué et fait émerger cette identité ukrainienne de façon très forte. Et sur quoi se sont-elles appuyées ? Eh bien, sur l'Europe et le retour à l'Europe. Nous en avons été privés, nous étions là, et finalement, la guerre froide nous a brisés, d'une certaine manière, de ce continent auquel nous avions accès normalement, culturellement, par affinité, intellectuelle et due à l'histoire.
Les intellectuels d'Ukraine qui avaient baigné dans l'héritage du soulèvement populaire antisoviétique à Budapest en 56, le printemps de Prague en 68, des élites politiques, elles, davantage tournées vers Moscou, Marcello Ciola, et les élites économiques aussi, ne pensaient pas à la question. C'était, est-ce que vous diriez qu'il y avait vraiment un décalage de perception au sein de la société ukrainienne entre intellectuels, élites politiques, élite économique et puis tous les autres?
Oui, oui, bien sûr. Mais à la fin des années 90, en fait, il y a une sorte de conviction aussi des élites politiques et économiques que s'approcher de l'Union européenne, c'était une bonne chose, en fait. Après l'accord de partenariat et coopération, surtout de 1998, la leadership politique de Kuchma, il se convainc en fait qu'il faut bâtir l'UE en Ukraine. Et en fait, il faut commencer une sorte de processus d'intégration politique au-delà de l'intégration économique demandée par Bruxelles. Et du coup, il y a deux documents essentiels où il sort était formalisé, on va dire, pour la première fois, cette volonté de devenir membre de l'Union européenne. C'est la stratégie pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne de 1998, suite aux accords de partenariat et coopération. Et puis, il y a le discours de Kuchma au Parlement, à l'ouverture, on va dire, de l'année politique au Parlement, pendant l'année 2000. Il y a un petit souci lié à cette volonté de devenir membership. En fait, on voit que c'est une sorte d'européisation déclarative, c'est-à-dire qu'ils ont la volonté, l'élite politique, de s'approcher à Bruxelles pour, comme vous venez de dire tout à l'heure, pour imposer une sorte de nouvelle identité politique et culturelle ukrainienne, du coup pour s'échapper de l'influence russe, mais aussi les élites politiques qui sont intéressées au marché de l'Union européenne, bien sûr, mais ils n'ont pas vraiment l'intérêt de faire les réformes demandées par Bruxelles. Cela a représenté toujours un gros problème.
Donc déjà un malentendu. À l'époque, vous citiez Kuchma, il s'agit de Léonid Kuchma, l'ancien Premier ministre puis président de l'Ukraine, qu'il a été jusqu'en 2004, je crois, en tout cas début des années 2000, Annie Daubenton. Et au sein de l'Union européenne, cette fois, est-ce qu'ils s'en trouvaient certains pour penser que l'Ukraine pouvait être des leurs? Peut-être que certains avaient lu l'essai de Milan Kundera, Tragédie de l'Europe de l'Est, qui essayait de persuader les lecteurs occidentaux que l'Europe centrale partageait une culture et une histoire commune avec l'Europe occidentale, ou dans les discours des politiques à l'époque, ça n'existait pas.
Écoutez, c'est intéressant justement votre question, parce que bien sûr qu'il y a une sensibilité proche entre les oppositions d'Europe centrale pendant la guerre froide et les oppositions de l'ex-URSS, on peut dire, de l'URSS, puis de l'ex-URSS. Et là, il y a quelque chose qui commence à infuser, on peut dire, dans la conscience occidentale, que finalement, l'État totalitaire, quand même, provoque un certain nombre de réactions qui sont dénoncées par les gens même qui sont traduits dans toutes les langues de l'Europe, qui circulent quand même plus ou moins sous le manteau, mais quand même. Et donc il y a là une convergence d'intérêts, on peut dire, qui commence à se manifester. Et je suis contente que soit mentionné le nom de Léonid Kuchma, qui est un personnage très ambigu, qui est absolument un produit soviétique et post-soviétique, mais qui a quand même publié un énorme bouquin qu'il a, je crois, offert à ses interlocuteurs russes et qui s'appelait « L'Ukraine n'est pas la Russie ». Et donc, son entourage est tombé à la renverse en se disant « mais c'est pas possible quand même que ce pur produit du Donbass, de l'oligarchie, de cet espace-là de l'Ukraine, publie un bouquin aussi violemment intitulé « L'Ukraine n'est pas la Russie ».
C'était peut-être une réponse à Valéry Giscard d'Estaing, qui estimait que l'Ukraine était à moitié russe. Ça avait créé beaucoup de malentendus à l'époque. L'Europe a néanmoins, au fil du temps, intégré l'Ukraine à sa politique de voisinage en 2003, puis à son partenariat oriental en 2009. Mais l'élargissement de 2004 s'était arrêté pile à la frontière avec l'Ukraine, en Roumanie. Et il y avait eu en Ukraine un sentiment d'être mis sur la touche qui s'était exprimé ici et là. La position de l'Europe évolue doucement après la révolution orange de 2004, après l'élection du président Viktor Yanukovych proche de la Russie, puis le grand mouvement de la place Maïdan en 2014.
Je pense que ce n'est que le début d'une révolution qui va nous rapprocher de l'Europe. Nous n'avons que 5 jours et nous croyons que si les gens restent ici et se battent aux côtés des politiques, ensemble, nous pouvons faire en sorte que le gouvernement ukrainien signe l'accord d'association avec l'Union. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de choisir une politique ou un parti politique en particulier. Il s'agit d'exprimer des valeurs que nous avons choisies. Il n'y a pas que des drapeaux politiques ici. Il y a beaucoup de drapeaux ukrainiens et de drapeaux européens.
Le mouvement du Maïdan qui a commencé en 2013, vous faites bien de me le rappeler, Annie Daubenton. On a entendu là Evgenia Timoshenko, qui était la fille de l'ancienne première ministre pro-UE Yulia Timoshenko, et une autre manifestante. Est-ce que cet enjeu politique, Marcello Ciola, était lu et apprécié de la même manière par l'Ukraine et par Bruxelles en 2014, quand les Ukrainiens descendent dans la rue? Est-ce que là encore, il y a une forme de dialogue de sourds, d'après vous, à ce moment-là?
Alors, pas du tout de la même façon. En fait, l'Union européenne est restée toujours dans la volée plutôt technique, économique, des réformes techniques et économiques, alors que l'Ukraine se trouvait en 2014 déjà avec la perspective politique, identitaire, culturelle, d'être insérée dans cette coïnée européenne. Et d'ailleurs, il faut aussi souligner que l'Ukraine a toujours été déçue un peu par la politique de voisinage et le partenariat oriental, parce que elle était considérée comme des autres pays comme la Géorgie, par exemple, ou la Biélorussie, etc., qui elles ne sentaient pas du tout au même niveau d'européisation. Ils se sentaient plus européens des autres pays à côté de qui étaient dans le partenariat oriental. Et en fait, en 2014, l'Union européenne a continué avec la volée des réformes internes, des réformes techniques, surtout à partir de l'annexion de la Crimée et de l'attaque au vol de la Malaysian Airlines. En fait, à ce point-là, l'Union européenne s'est convaincue que, en fait, peut-être, il devait tourner vers une intégration un peu plus politique, mais toujours sous conditionnalité technique. Et du coup, ils ont commencé un discours de réforme du secteur de la sécurité interne, ce qui a encore une fois déçu énormément Kiev, qui s'attendait à un support militaire et de défense directe de l'Union européenne, alors que pour l'Union européenne, le concept de sécurité représentait quelque chose de vraiment très différent jusqu'à 2022.
Et c'est à ce moment-là néanmoins, donc 2014, que l'Ukraine passe avec l'Union européenne un accord d'association signé par le successeur de Yanukovych, Petro Poroshenko.
It's a result of the...
Cet accord d'association, c'est l'aboutissement de 7 années de travail et ça ouvre des perspectives totalement nouvelles pour mon pays. C'est l'un des jours les plus historiques depuis l'indépendance. Nous pouvons profiter de cette occasion pour moderniser le pays. Tout ce dont nous avons besoin pour cela, c'est de la paix et de la sécurité. Nous espérons qu'à l'avenir, l'Union européenne fera preuve d'autant de solidarité qu'elle ne l'a fait par le passé.
Est-ce que le rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne, donc engagé par cet accord d'association, devient à ce moment-là, Marcello Ciola, politique, ou il est toujours strictement économique? Parce qu'un accord d'association, c'est avant tout pour faciliter le commerce.
Oui, c'est avant tout facilitation du commerce. Mais ça devient aussi politique. Il y a 2 volets dans l'accord d'association. Volet politique, c'est un peu plus, on va dire, déclaratif. C'est pas du politique au sens strict du terme. Et il y a le volet économique. Après, il faut opérationnaliser les deux. Et l'Union européenne a décidé d'opérationnaliser d'abord le volet économique à travers les réformes internes. Et d'ailleurs, on a entendu Petro Poroshenko évoquer la sécurité du pays. Et alors, c'est exactement là qui se sont jouées les relations entre Union européenne et Ukraine dans cette phase-là. C'est-à-dire le fait que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour l'Ukraine, ils entendaient une aide de sécurité militaire directe sur le terrain, alors que, par exemple, l'Union européenne, elle a poussé pour réformer le secteur de la sécurité interne, pour, on va dire, reconstruire les liens entre les institutions, et notamment les institutions de sécurité comme la police, par exemple, et les citoyens, mais aussi commencer à faire les réformes demandées, c'est les réformes de la justice, c'est les réformes de l'État, du coup, dans son sens fédéral, on va dire. Et du coup, les Ukrainiens se retrouvent face à un concept de sécurité complètement différent par rapport à celui entendu par l'Union européenne. C'est pas la stabilité des frontières qui fait la sécurité, c'est ce que voulait Kiev. Mais c'est la solidité des institutions internes que pour Bruxelles fait la sécurité d'un pays. Et du coup, c'est les réformes que Bruxelles demande à faire à l'Ukraine sans aucun aide militaire directe.
Et ce que vous expliquez dans votre thèse, Marcello Ciola, c'est justement que ce moment de coopération en matière de sécurité et de défense qui commence à partir de 2016, ou en tout cas ces partenariats plus politiques où on peut parler de state building, comme disent les institutions, une forme de consolidation, de construction d'un État, les réformes de la police, de la gendarmerie, c'est à ce moment-là que des fonctionnaires européens et ukrainiens se rencontrent. Et comment ça change ça, la nature de la relation entre les deux ?
Oui, alors ça change dans le sens que ça déclenche une sorte de socialisation culturelle et politique entre les fonctionnaires de l'Union européenne et les fonctionnaires de l'Ukraine. C'est une partie, on va dire, c'est la partie opérationnelle de l'agenda pour l'accord, pour l'actuation et la construction l'application de l'accord d'association. Et du coup, les fonctionnaires de Bruxelles et ceux de l'Ukraine, ils se retrouvent à travailler coudre à coudre. Et du coup, ça commence à ce partage des valeurs, ce partage d'entendre les mots, d'entendre la politique aussi faite à la façon de Bruxelles. Ça veut pas dire d'imposer un modèle, c'est-à-dire celui de Bruxelles, mais de croiser les deux modèles. Et ça a déclenché aussi plusieurs initiatives de coopération culturelle qui ont mené en socialisation politique et culturelle, même au niveau de population.
Annie Daubenton, est-ce que toutes les réformes politiques entreprises ces dernières années par l'Ukraine, en Ukraine, y compris celle de la lutte contre la corruption dont on a beaucoup parlé lundi, est-ce qu'elles l'ont d'abord et avant tout été pour répondre à des exigences européennes et accélérer le processus de rapprochement ?
Oh, je dirais que là, le terme employé de croisement de deux cultures politiques est bien vu. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a là
le croisement des deux partenaires qui s'échangent leur
savoir, leur mode de gouvernement. Et donc là c'est vrai que c'est très très sensible. Alors, est-ce que la question que vous posiez, est-ce que les réformes faites, il y a là les réformes qui ont été imposées par la société. Vous savez, c'est une autre spécificité ukrainienne, c'est que d'une part, il y a l'État qui essaie d'avancer lourdement, difficilement, avec ses spécificités, mais qui avance peu et pas toujours au bon rythme. Et puis, il y a une société qui pousse en permanence. Et
c'est
ce à quoi, nous avons assisté au moment de ce grand scandale, on peut dire, oui, quand même, de l'été dernier autour de la corruption, où la société a montré que, indépendamment de la guerre, ma foi, on est prêt à se mobiliser encore pour essayer d'imposer à l'État deux choses. D'une part, les réformes anticorruption, et d'autre part, ne pas pratiquer l'autoritarisme d'une certaine manière, ou un pouvoir trop personnel, comme l'état de guerre, au fond, aurait poussé la gouvernance de l'Ukraine.
Marcello Ciola, quelques jours seulement après le début de la grande offensive russe de 2022, l'Ukraine dépose sa candidature auprès de l'Union européenne. La façon dont évoluent les relations entre l'Ukraine et l'UE à partir de là, est-ce que c'est un changement de degré ou de nature ? Est-ce qu'on est toujours, dès lors, dans le cadre de cette construction d'un État, de ces échanges que vous nous racontiez ?
Oui et non, dans le sens que du point de vue de l'Ukraine, carrément la guerre, ça représente un passage essentiel pour s'ancrer à l'Occident, définitivement. Mais l'adhésion, le processus d'adhésion à l'Union européenne, pour de point de vue de l'Ukraine, ça reste toujours dans le même volet, c'est-à-dire on essaie de s'intégrer au niveau politique à travers les réformes, et d'ailleurs la guerre représente un accélérateur pour pousser les réformes, notamment contre la corruption, la réforme des institutions, de la justice, etc. Ce que change, on va dire, d'une façon radicale, c'est le point de vue de l'Union européenne. Du point de vue de l'Union européenne, en février 2022, on change complètement de regard face à l'Ukraine et face au processus d'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. En fait, jusqu'à 2022, pour Bruxelles, l'Ukraine, ça pouvait être un bon partenaire associé, économique, et voire avec une très profonde coopération politique, alors qu'à partir de février 2022, l'Ukraine, ça devient, aux yeux de l'Union européenne, un possible, on va dire, candidat pour la vraie adhésion. L'adhésion avant février 2022 n'était pas vraiment sur la table des négociations, alors que maintenant l'Union européenne se sent victime, on va dire, se sent dans une dette éthique, on peut dire, c'est-à-dire celle de ne pas abandonner un allié, de sortir de l'ambiguïté stratégique dont on était précédemment, c'est-à-dire ne pas trop être proche de l'Ukraine pour ne pas mécontenter Moscou. Et du coup, l'Ukraine, ça devient le symbole de la défense des valeurs de l'Union européenne, c'est-à-dire la liberté, la démocratie, etc.
Voilà, valeurs que d'aucuns récusent ou ont de ces valeurs une autre vision. Et on parlait de Viktor Orban, on en parlera plus précisément dans le focus tout à l'heure, de la Hongrie qui a posé son veto à maintes reprises à l'avancée du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais aussi l'Autriche, d'ailleurs, peut-être un petit mot là-dessus, Annie de Manteau. Pourquoi l'Autriche? Est-ce qu'on sait, elle a été un temps gouvernée par l'extrême droite, le FPE, une longue tradition de neutralité aussi, elle a même négocié une clause d'exception pour ne pas être impliquée dans l'article 42.7 du traité de l'UE. En tout cas, la Hongrie n'est pas la seule aujourd'hui, néanmoins, non, à s'opposer, pour des raisons différentes. Mais...
C'est-à-dire tous les pouvoirs illibéraux ou risquant de le devenir dans des élections proches, bien sûr, trouvent là un point de ralliement.
Mais l'Allemagne n'est pas du tout pour non plus.
Non. Mmh. Oui, c'est, là, on est face à des politiques intérieures qui nous menacent tous, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qui nous menacent tous, pays européens. Et donc là, on a une sorte de fragilité de ce mur que l'on essayait de faire, parce qu'il faut bien voir aussi que dans la perception ukrainienne, c'est un mur contre l'espace russe. Et ça, c'est fondamental dans les négociations qui sont en cours, c'est-à-dire se protéger définitivement et d'une nouvelle invasion, comme le disent les négociations de paix, et également d'une sorte de culture soviétique rampante et qui pourrait réattaquer et infuser par un biais ou par un autre.
Il se trouve, Annie de Manteau, que vous avez tout à l'heure évoqué très rapidement la question de la reconstruction, et nous avons consacré la semaine dernière dans Culture Monde une série sur la question de la reconstruction d'après-guerre, et c'est déjà apparemment un enjeu en Ukraine. Il y a même des réunions d'experts toutes les deux semaines sur la question, avec des représentants de l'Union européenne aussi.
Oui, c'est un souci depuis le début du conflit. Vous savez, ça c'est quelque chose de spectaculaire pour nous, y compris... Comment, immédiatement après les bombardements, on reconstruit tout de suite? Et l'autre, souci du pouvoir ukrainien, c'était, ok, ils nous détruisent, mais on va reconstruire en mieux et en plus moderne. Et ça, on l'a vu dans le domaine militaire, mais aussi architectural, la numérisation de la société, la modernisation, c'est-à-dire prendre ses valeurs et d'une certaine manière...
Ces technologies.
Il y a là une facétie, c'est-à-dire prendre l'Europe de court sur ses propres avancées. Et là, on voit bien ce qui se passe dans le domaine militaire, où c'est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire que les avancées technologiques ukrainiennes ont plusieurs pans d'avance sur les technologies même de l'OTAN, puisqu'on l'a vu sur le terrain, mais il y a là régulièrement des plateformes de gens qui se réunissent pour réfléchir sur qu'est-ce que sera, comment refaire le pays mieux. Pas autrement, mieux.
Même d'aucuns disent à l'européenne, mais après, avec toutes les... Ça mériterait de longues discussions et de longs débats. En tout cas, côté UE, certains craignent aussi une dévalorisation de l'adhésion, une fracture durable au sein de l'UE, car la Hongrie, notamment, y est fermement opposée. On en parlera plus en détail après cette chanteuse ukrainienne, Claudia Petrivna. La chanteuse ukrainienne Claudia Petrivna et sa chanson « Chagrin ». Elle date de l'année dernière. « Ton silence est mon chagrin », dit-elle. Vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode de notre série sur l'Ukraine, une nation transformée par la guerre. La guerre qui a changé aussi les relations de l'Ukraine avec l'Union européenne. On en parlait avec nos invités Annie Daubenton et Marcello Ciola. Même si l'UE est divisée à ce sujet, la Hongrie qualifie désormais l'Ukraine d'ennemi depuis que celle-ci frappe l'oléoduc Droujba en territoire russe et qui a préoccupé visionne la Hongrie. Ça a commencé en juillet dernier et les frappes continuent.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Az ukránok azt követelik, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról.
Je considère les demandes de Kiev faites à la Hongrie de renoncer à la manne énergétique russe et à soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne comme des menaces claires adressées à notre gouvernement. Je veux dire à ce Parlement que nous ne céderons pas.
Viktor Orbán devant le Parlement hongrois il y a 3 jours, lundi dernier. Bonjour Joël Le Pavous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant installé à Budapest, même si vous êtes en ce moment même à Debrecen, la deuxième ville de Hongrie. L'Ukraine, une menace claire pour la Hongrie, d'après Viktor Orbán. De quelle menace parlait-il lundi dernier devant le Parlement ?
Eh bien, Viktor Orbán parlait de la menace de la coupure de l'approvisionnement énergétique par l'intermédiaire de l'oléoduc Droujba, puisque la Hongrie dépend extrêmement de cet oléoduc qui transite par l'Ukraine. Et donc, à ce titre, Viktor Orbán considère la coupure de l'approvisionnement qui a été décrétée par l'Ukraine comme une menace sur la sécurité énergétique de la Hongrie. C'est à ce titre que Viktor Orbán a été très offensif dans le discours devant le Parlement que vous avez diffusé à l'instant.
Il se trouve que l'attaque au drone sur cet oléoduc Droujba en territoire russe a été menée par un commandant ukrainien qui s'appelle Robert Brovdy, qui est très connu en Ukraine. Il est issu de la minorité hongroise d'Ukraine. Une minorité qui principalement vit près de la frontière entre les deux pays, donc aux confins occidentaux du sud de l'Ukraine. Que pèse cette minorité aujourd'hui dans les différends qui opposent l'Ukraine à la Hongrie ?
Oui, cette minorité donc de Transcarpathie ou de Ruthénie subcarpathique, comme on l'appelait autrefois, une minorité qui d'ailleurs aujourd'hui numériquement est deux fois moins importante que depuis le début de la guerre, puisque la plupart des membres de cette minorité, de par leur proximité avec la frontière, ont décidé de partir en Hongrie, en Slovaquie, voire même plus à l'ouest de l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est une minorité qui est beaucoup moins importante en termes de nombre qu'il y a quelques années. C'est une minorité que Viktor Orban soutient, des minorités envers lesquelles il mène un intense lobbying politique et culturel, des minorités qui d'ailleurs ont pour la plupart la nationalité hongroise, de par cette politique donc de lobbying menée par Viktor Orban, des minorités qui le soutiennent très majoritairement aux élections, et une minorité que Viktor Orban affirme défendre contre le nationalisme de Kiev. C'est un différent qui en fait date déjà même de bien avant la guerre, enfin l'invasion à grande échelle de 2022, puisque en 2017, si ma mémoire est bonne, Kiev avait instauré une loi pour, disons, renforcer ou en tout cas favoriser la langue ukrainienne dans l'éducation nationale. C'était une loi qui visait les langues minoritaires et notamment le russe. Et à l'époque, le gouvernement Orban l'avait pris comme une attaque personnelle contre la minorité hongroise, puisque cette loi visait toutes les langues minoritaires, que ce soit le russe, le hongrois ou le roumain.
Est-ce que cette minorité qui est ukrainienne se sent ukrainienne, patriote, en particulier en temps de guerre ?
Alors c'est difficile puisque de par l'éloignement géographique avec le front, il faut quand même savoir que la Transcarpathie est déjà très éloignée de Kiev, donc du centre du pays, elle est encore plus du front. C'est une région qui aussi est relativement épargnée par les bombardements, peut-être un ou deux depuis le début de la guerre. Et puis la Transcarpathie est une région multiculturelle, multiethnique. On y trouve des Hongrois, des Slovaques, d'autres minorités. C'est une région où on ne parle pas forcément tout le temps et à tous les endroits ukrainiens, donc qui est un petit peu éloigné de cette conception nationaliste, ou en tout cas de ce nationalisme ukrainien que promeut Volodymyr Zelensky. Donc à ce titre, la Transcarpathie s'est toujours considérée comme une région à part, et c'est encore le cas aujourd'hui.
Avec une minorité qui a quand même payé déjà un lourd tribut à cette guerre, parmi les soldats de l'île aux serpents, il y avait un Hongrois d'Ukraine. L'île aux serpents, cette minuscule île en mer Noire qui a attaqué l'armée russe dès le premier jour des combats, le 24 février. L'Ukraine vient de nommer un nouvel ambassadeur en Hongrie, et c'est un Hongrois d'Ukraine, Fedir Sangor. Est-ce que c'est de la part de l'Ukraine une tentative de bâtir un pont entre les deux pays et de se parler de nouveau, ou au contraire c'est une provocation ou vécue comme telle ?
Alors, c'est une tentative, on va dire, de bâtir un pont. Et vous parliez de la contribution de la minorité hongroise de Transcarpathie au front. Il faut savoir que Monsieur Fejér Sándor, donc le nouvel ambassadeur d'Ukraine en Hongrie, est lui-même un vétéran du front. On l'appelait le professeur des tranchées parce qu'il enseigne à l'université de Ushuarod, qui est la capitale de la Transcarpathie. Et Monsieur Fejér Sándor paye, on va dire, aujourd'hui le tribut de ce différend entre Kiev et Budapest, puisque récemment, il a été convoqué plusieurs fois par le ministère des Affaires étrangères hongrois pour des conversations assez houleuses avec le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, justement à cause de, en tout cas selon le gouvernement hongrois, l'hostilité manifeste de l'Ukraine envers Budapest à cause de ses positions pro-russes.
La Hongrie est en ce moment en pleine campagne pour les élections législatives qui auront lieu le 12 avril prochain. Comment Viktor Orban, aujourd'hui, fait de l'Ukraine un sujet de campagne pour vous, Joël Lepavous, qui est un observateur quotidien de cette campagne? Dans quelle mesure ce sujet de la guerre en Ukraine a pris de la place dans les débats politiques?
Bah écoutez, au-delà même d'un sujet, c'est même presque un mantra de Viktor Orban. C'est devenu vraiment le thème majeur, ou l'un des thèmes majeurs de la campagne de Viktor Orban. Il suffit pour ça de regarder les affiches qui sont le long des routes et des grands axes en Hongrie, partout dans le pays. L'une des plus connues et en même temps très violentes montre Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Monsieur Manfred Weber, le président du Parti populaire européen, donc le groupe de droite au Parlement européen, qui pointe du doigt la paume ouverte de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et le message de cette affiche, c'est « Message à Bruxelles, nous ne payons pas parce que la Hongrie refuse de contribuer au mécanisme européen de 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. » Et cette affiche est d'ailleurs dans le cadre d'une pétition nationale qui a été lancée par Viktor Orban en pleine campagne pour encore renforcer ses soutiens dans le cadre de la campagne. Et puis, il y a l'opposant Peter Magyar, qui est toujours dominateur dans les sondages et qui est assimilé à un agent de l'Ukraine, à un agent, un pantin de Volodymyr Zelensky. On voit des affiches, par exemple, où Volodymyr Zelensky dit à Peter Magyar « Envoie des armes !» Et Peter Magyar répond avec des bulles de bande dessinée « À vos ordres !» Donc voilà, l'idée, c'est de poser Peter Magyar en véritable pantin de Kiev. La guerre en Ukraine, c'est vraiment devenu presque une obsession, on va dire, de Viktor Orban. Il avait déjà mené campagne avec succès là-dessus il y a 4 ans lors du déclenchement de la guerre, où il s'était posé en protecteur de la nation hongroise face aux dangers de guerre. Et aujourd'hui, Viktor Orban effraie, on va dire, sa population en disant que si il y a un changement de régime en Hongrie, ça voudra dire que la guerre va s'exporter vers l'ouest de l'Europe, et donc à ce titre il faut refuser la guerre et il faut défendre la paix. Et c'est vraiment le mantra de Viktor Orban, ce côté effrayant de la guerre en Ukraine face auquel Viktor Orban se pose en rempart, voire même en bouclier de la nation hongroise.
Viktor Orban, oui, qui se pose en faiseur de paix, qui avec son parti le Fidesz a aussi créé des affiches de campagne où on voit son opposant Peter Magyar dans quelque chose qui ressemble vaguement à des toilettes en or du type de la salle de bain que s'est offerte Timur Mindich, l'ancien producteur de la série ukrainienne Serviteur du Peuple, qui a fait connaître Volodymyr Zelensky, un très proche du président ukrainien, aujourd'hui accusé de corruption et qui aurait fui en Israël puisqu'il a la double nationalité, ce scandale de corruption dont on a parlé dans l'émission de lundi. Peut-être pour conclure, Joël Le Pavous, comment l'Union européenne s'est-elle saisie de l'affaire du bombardement ukrainien contre l'oléoduc Drujba, qui en effet met un de ses membres, la Hongrie, membre de l'Union européenne, dans une situation délicate? Comment l'Union européenne essaye d'arbitrer ce différend-là?
Alors l'Union européenne, elle essaye déjà de pousser, comme vous le savez, tous les États membres à abandonner les énergies russes d'ici la fin 2027. Pour l'instant, la Hongrie et la Slovaquie continuent de bénéficier d'exemptions, mais le but étant quand même de les pays récalcitrants, en l'occurrence la Hongrie, la Slovaquie, mais surtout la Hongrie, à chercher des alternatives pour voilà, ne plus en fait financer finalement l'effort de guerre russe. Il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs milliards d'euros par an qui sont payés par la Hongrie directement aux entreprises russes. Il faut quand même rappeler que récemment, il y a une centrale, enfin ou plutôt l'extension d'une centrale nucléaire russe qui a été inaugurée en Hongrie. Donc Viktor Orban et la Hongrie, en tout cas son gouvernement, ne semble pas prêt à vouloir abandonner les énergies russes, et l'Union européenne a beaucoup de mal à faire en sorte que tout le monde rentre dans le rang. Et c'est un peu là aussi une marotte du gouvernement Orban que de se poser en rebelle face à l'Union européenne qui essaye autant de faire ce peut que faire ce peut de pousser Viktor Orban à rentrer dans le rang.
Et quant à Volodymyr Zelensky, il répond à Viktor Orban: mais pourquoi c'est à nous que vous vous adressez? Demandez aux Russes plutôt d'arrêter la guerre, ce sera plus simple pour tout le monde. Merci beaucoup Joël Le Pavous, journaliste indépendant basé à Budapest, d'avoir été avec nous. Merci à Nido Benton également d'avoir
merci
été
à vous
dans ce studio, journaliste, ancienne correspondante de Radio France à Kiev et Moscou. Et merci à Marcello Ciola, chercheur à l'université Giulielmo Marconi de Rome.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous commencez cette revue de presse, Catherine, avec ce nouveau signe des tensions entre la Chine et le Japon. Tokyo va déployer des missiles sol-air sur une de ses îles proches de Taïwan.
C'est la première fois que le Japon précise un calendrier d'ici 2030-2031 pour déployer ses missiles sur l'île de Yonaguni, dans la préfecture d'Okinawa, à une centaine de kilomètres à l'est de Taïwan, explique le quotidien japonais Mainichi Shimbun. Et avant cela, dès cette année, le Japon prévoit de créer une unité de guerre électronique anti-aérienne sur le site de Yonaguni, capable de perturber les communications et de brouiller les radars ennemis, annonce la BBC et Nikkei Asia. Le journal japonais ajoute que Tokyo ne fait que répondre à l'intensification de l'activité militaire chinoise près de l'île de Yonaguni, vulnérable en cas de conflit de Pékin avec Taïwan, île démocratique autonome que la Chine revendique, rappelle la BBC. Et les tensions entre Tokyo et Pékin sont vives depuis novembre, depuis que la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a suggéré que le Japon activerait ses forces d'autodéfense, son armée, en cas d'attaque contre Taïwan, rapporte le quotidien japonais Asahi Shimbun. Pékin a répliqué tous azimuts, en limitant ses exportations de terres rares, en incitant ses ressortissants à ne plus se rendre au Japon, annulation également de concerts d'artistes chinois et même rapatriement en Chine de pandas du zoo de Tokyo, énumère le Wall Street Journal. Autre sanction depuis mardi. Le ministère chinois du commerce sévit contre 40 entreprises et organismes japonais que la Chine accuse de participer à la remilitarisation du Japon, dont des filiales de Mitsubishi et de Kawasaki dans l'aéronautique, ou bien encore l'agence spatiale japonaise JAXA, indique le réseau télévisé TBS News et le Japan Times. La Chine va interdire l'exportation de biens et de technologies à potentiel double usage civil et militaire, des terres rares notamment utilisées pour fabriquer des semi-conducteurs, des moteurs, des aimants, des machines-outils, batteries, précise Nikkei Asia et le Wall Street Journal. Concrètement, cette interdiction s'applique aux entreprises basées sur le sol chinois, mais elle interdit aussi la fourniture de biens fabriqués en Chine à des entités japonaises installées à l'étranger. Nikkei Asia craint des retards d'approvisionnement, de production pour les entreprises japonaises. L'inquiétude grandit, constate presque fièrement le quotidien chinois Global Times, et d'estimer dans un édito que le Japon est responsable de la situation à cause de ses ambitions de remilitarisation.
Enfin, Catherine Dutu, polémique aux États-Unis autour du patron du FBI.
Kash Patel est accusé de mener les représailles contre les agents du FBI qui ont enquêté sur la rétention par Donald Trump de documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Une dizaine de ces enquêteurs du FBI ont été licenciés, annoncent CNN, CBS News et le New York Times. C'est une purge politique contre les employés du FBI qui déplaise à la Maison-Blanche, affirme MS Now. Et ces limogeages interviennent alors que Kash Patel est aussi critiqué pour son utilisation des jets du FBI, des avions gouvernementaux, notamment pour un voyage à Milan la semaine dernière, ajoute MS Now et The Hill. Le patron du FBI, fan de hockey, notre Fox News, a célébré dans les vestiaires la médaille d'or de l'équipe masculine de hockey sur glace au JO. Ce n'est que l'un des voyages financés par les contribuables, dénonce le New York Times. Après des séjours entre amis en Écosse, mais aussi au Texas ou en Pennsylvanie, où Kash Patel a vu un concert de sa petite amie, chanteuse de country, explique le New York Times. Trop de vols d'agréments, accusent des élus démocrates cités par MS Now et le New York Times. Ce nouveau voyage en Italie la semaine dernière passe donc mal, reconnaît Fox News.
A wild scene in the locker room with FBI director Kash Patel even spotted celebrating with the team.
Scène folle dans les vestiaires avec le directeur du FBI, Kash Patel. On l'a vu fêter dans les vestiaires la victoire de l'équipe de hockey masculine en descendant une bière avant d'asperger tout le vestiaire. Patel balaye les critiques en répliquant « Oui, j'aime l'Amérique et j'ai été extrêmement touché lorsque mes amis, tout nouveaux médaillés d'or, m'ont invité dans les vestiaires », rapporte Fox News. Un boys club qui rappelle aux Guardian les fêtes sur les campus américains, avec une blague de mauvais goût aussi dans les vestiaires. Lorsque Donald Trump s'est plaint lors d'un appel téléphonique pour féliciter l'équipe de hockey masculine de devoir inviter aussi à la Maison Blanche l'équipe féminine de hockey, rapporte NBC News et ESPN. Invitation que les championnes olympiques ont ensuite déclinée. Un élu démocrate de l'Illinois, cité par The Hill, raille lui le manque de priorité du patron du FBI. Alors que 3 millions de documents sur l'affaire Epstein ont été publiés, les appels à la transparence montent aux États-Unis après que la radio publique NPR et le New York Times ont révélé que le ministère de la Justice a retiré du dossier Epstein des documents mentionnant Donald Trump, dont certains relatant des accusations d'agression sexuelle sur mineurs.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, Mélanie Chalandon conclura en quelque sorte notre série sur l'Ukraine avec une table ronde consacrée aux drones. Comment les drones changent les règles de la guerre avec Léo Peria-Peigné de l'IFRI et le journaliste à France 24 Guillaume Maurice. Une table ronde précédée d'un retour des Philippines auprès des pêcheurs empêchés d'accéder à la mer par les navires chinois. Reportage d'Antoine Védeillé pour Arte. Dans un instant, les midis de culture.